Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Il y a quelques mois, la télé qatarie Al Jazeera avait provoqué un scandale en Grande-Bretagne en diffusant un documentaire sur les groupes de pression pro-israéliens dans le pays. Ces lobbies s'attaquaient directement aux parlementaires, aux décideurs et tous ceux qui pouvaient influencer la politique britannique vis-à-vis d'Israël, avec des méthodes particulièrement intrusives pour les personnes et pour les institutions. Un diplomate israélien avait dû quitter Londres à la suite de ce scandale. Al Jazeera récidive avec un documentaire en 4 épisodes sur les groupes de pression pro-israéliens, cette fois aux États-Unis. Des groupes juifs, mais aussi chrétiens baptistes, avec, là encore, des méthodes pernicieuses et frôlant l'illégalité. Mais cette fois, le documentaire fait le buzz, car le Qatar a pour le moment décidé de ne pas le diffuser, malgré les protestations d'Al Jazeera. Le document paraît être devenu un élément diplomatique dans les relations entre Doha et Washington. Mais ces révélations commencent à sortir dans la presse, comme dans Le Monde ou Le Monde diplomatique en France, ou encore The Nation aux États-Unis. Orient Hebdo accueille dans un instant l'un des journalistes qui a eu le privilège, très récemment, de visionner le documentaire interdit. Bonjour Alain Grèche.
Bonjour Éric Bataillon.
Directeur de la revue Orient 21, vous signez dans le journal mensuel Le Monde diplomatique un article sur les méthodes des groupes de pression américains favorables à Israël, des méthodes mises en évidence dans un documentaire encore inédit de la chaîne qatari Al Jazeera. Alors on suit un certain James Anthony Kleinfeld. Qui est-il et que fait-il précisément?
C'est un jeune homme très brillant, on dirait en France, de manière ironique, il a l'air d'un jeune homme de bonne famille, il est britannique, il a fait des études à Oxford, il est juif, et il est en fait un journaliste d'Al Jazeera, et il va aux États-Unis et il va s'infiltrer pendant 5 mois dans le lobby pro-israélien, dans les différentes organisations. Et il va acquérir la confiance de tout le monde, puisque en plus, à un moment, on va lui demander, en lui disant c'est vraiment très sensible, on peut le demander qu'à toi, etc., d'infiltrer les groupes pro-palestiniens pour savoir ce qu'ils disent, pour essayer de trouver des déclarations antisémites ou des déclarations d'appui au terrorisme.
C'est un jeune qui est embauché pour un stage, en quelque sorte, avant d'être embauché. Peut-être plus tard,
À l'issue de son stage, on est tellement content de lui qu'on lui propose de l'embaucher, ce qui évidemment il va refuser, mais il fait des stages comme c'est très souvent le cas aux États-Unis. Il y a des étudiants de tous les pays du monde qui viennent aux États-Unis, qui font des stages dans des think tanks, dans des organisations, etc. Et il apparaît comme quelqu'un qui va faire un type de stage. En plus, il a une bonne connaissance du Proche-Orient, il a fait des études sur le Proche-Orient, il parle, je crois, yiddish, hébreu, enfin bon, je veux dire, il a vraiment toutes les qualités. À plusieurs reprises, on voit ses patrons faire son éloge.
Et il reçoit beaucoup, beaucoup d'informations, de confidences.
Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que, bon, tout le monde connaît le poids du lobby pro-israélien aux États-Unis, la manière dont il fonctionne, mais là, il y a un certain nombre d'informations. On peut résumer, disons, ce qui ressort du documentaire, c'est 2 choses. C'est qu'il y a une vraie entreprise d'espionnage des citoyens américains qui, à mon avis, du point de vue de la loi américaine, est illégale. C'est-à-dire que le lobby espionne les gens soupçonnés d'être des soutiens aux Palestiniens, mais ils vont creuser dans leur vie personnelle, ils font des bases de données, etc. Et cette entreprise d'espionnage n'est possible, et on le voit dans le documentaire par des déclarations de responsables israéliens, n'est possible que grâce à l'aide technique, financière du gouvernement israélien.
Alors on y reviendra, Alain Grèche. Il y a une organisation, The Israel Project, TIP, qui s'occupe plus particulièrement de l'image d'Israël dans les médias. Est-ce que d'autres cherchent à influencer d'autres domaines, par exemple le Congrès américain?
Oui, il y a AIPAC, par exemple, la plus connue et la plus puissante des organisations. Eux, ils s'occupent essentiellement de politique.
Comment font-ils?
C'est-à-dire, alors, il y a quelqu'un qui, à un moment, explique à Kleinfeld, il dit, tu sais, pour amener les congressmen américains à faire quelque chose, il faut faire pression. Et la seule moyen de faire pression, c'est l'argent. Voilà. Alors, il y a plusieurs éléments qui sont analysés, mais dont certains ne sont pas très nouveaux. C'est-à-dire la manière dont les fonds sont collectés. Là aussi, à la limite de la légalité, parce que vous savez, il n'y a pas possibilité aux États-Unis de faire des dons de plus de $2,700. Donc, on explique dans le documentaire comment on fait pour contourner cette loi. Ou bien d'autres choses, par exemple, il y a une chose que je ne savais pas du tout, c'est que pendant très longtemps, une des manières par lesquelles le gouvernement et le lobby achetaient les membres du Congrès, c'était en leur payant des vacances luxueuses sur les plages israéliennes. Alors, il y a eu une loi au Congrès pour interdire ça, et ça a été interdit, mais il y a un amendement que tout le monde appelle l'amendement AIPAC, parce que ça a été imposé par l'AIPAC, de dire oui, c'est interdit, mais quand c'est culturel, à ce moment, on peut faire ça. Et donc, le lobby qui a des dizaines d'organisations culturelles va faire les mêmes invitations, simplement en mettant un prétexte culturel, politique, de visite, quoi.
Alors, ces groupes de pression ciblent particulièrement les adeptes du BDS, qui promeut le boycott, le désinvestissement et des sanctions contre Israël. Pourquoi et comment agissent-ils ?
Alors, d'abord, ce mouvement, c'est un mouvement qui a été lancé par les organisations non gouvernementales palestinienne en 2005. C'est un mouvement pacifique, non violent, qui prône, disons, les mêmes méthodes qui ont été appliquées à l'Afrique du Sud de l'apartheid, en disant il faut faire pression sur le gouvernement israélien. Voilà. Et alors, une des choses qui m'a étonné dans ce documentaire, c'est que, bon, le mouvement BDS est important, il s'est développé dans les campus américains, mais quand on voit la force du lobby, on se dit, mais c'est vraiment David et Goliath, quoi. C'est Goliath qui s'attaque à... Et en fait, il y a plusieurs responsables du lobby ou responsables israéliens qui expliquent. Ils disent, vous comprenez, Israël est en train de perdre dans les nouvelles générations aux États-Unis. Parce que de plus en plus, ce que les gens voient à la télévision, c'est l'image de la répression, c'est la colonisation qui se poursuit. Donc l'image d'Israël se dégrade. Et disent ces responsables, ces jeunes qui sont à l'université aujourd'hui, c'est des jeunes qui seront les responsables de demain. Donc le risque est très grand de voir la nouvelle génération nous échapper. D'autant plus qu'il y a un autre phénomène qui est mis en lumière par ce film, c'est le fait que, jusqu'à présent, le soutien à Israël était un soutien bipartisan, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de grande différence entre le Parti démocrate et le Parti républicain. Et ça, c'est en train de changer. Parce que le lobby s'est tellement identifié à la fois à Trump et à Netanyahou, que dans la base démocrate, il commence à y avoir des réticences par rapport à ce soutien inconditionnel. Donc, on voit le soutien à Israël grandir chez les sympathisants républicains et diminuer chez les démocrates. Et ça, c'est un cauchemar pour le lobby pro-israélien.
C'est ce que vous décrivez, vous dites, il y a une certaine fébrilité parmi tous ces groupes de pression qui pourtant sont extrêmement puissants.
Voilà, c'est, réellement, ça m'a surpris. C'est-à-dire, je me dis, mais bon, je veux dire, je sais que BDS est influent sur les campus, etc. Mais quand même, pourquoi il y a cette peur? Et c'est eux-mêmes qui donnent cette explication, pourquoi ils ont peur.
Et alors, ces groupes de pression juifs américains, est-ce qu'ils ont, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, des connexions directes avec le gouvernement israélien ?
Oui, tout à fait. D'abord, je veux faire une précision. Quand on parle du lobby pro-israélien, ce n'est pas un lobby juif. C'est un lobby à la fois avec une partie de la communauté juive et un lobby dont la base massive, c'est les fondamentalistes chrétiens. Donc ça, c'est très très important. Il y a plusieurs de leurs responsables qui parlent dans le documentaire. Donc ça, c'est effectivement très important. Alors, ce que montre le documentaire, et ça, c'est l'intérêt de l'enregistrement en caméra cachée, c'est que les responsables disent ce qu'ils ne peuvent pas dire publiquement, c'est qu'ils sont en contact direct avec le ministère israélien des Affaires stratégiques, que les technologies leur sont fournies par les Israéliens, etc., etc. Donc, il y a effectivement une liaison directe avec le gouvernement israélien.
Et le gouvernement israélien revendique d'ailleurs lui-même la possession, en quelque sorte, de certaines fondations américaines qui font du lobby en faveur d'Israël.
Oui, c'est par exemple...
Or, c'est interdit.
Il y a la Fondation de défense de la démocratie, qui est une des fondations néoconservatrices très importantes, très influentes, qui a joué un rôle dans la crise autour du Qatar, qui a appuyé l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, etc. Et dont une responsable israélienne dit « c'est à nous ». Or, vous avez le droit d'être aux États-Unis, un agent d'une puissance étrangère. Mais il faut vous déclarer comme tel. Or, ils ne se sont pas déclarés comme tel. Et donc, la question est de savoir si ce documentaire est projeté, j'espère qu'il le sera, qu'est-ce que feront les autorités américaines ? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est passible des tribunaux. Et effectivement, si ça va dans les tribunaux, ça sera un scandale sans précédent.
Alors, on se souvient justement qu'Al Jazeera avait déjà fait un précédent documentaire qui, lui, était consacré au groupe de pression pro-israélien en Grande-Bretagne. Maintenant, c'est aux États-Unis. Est-ce que les groupes de pression sont présents dans tous les pays du monde ?
Oui, je crois que, bon, vous avez parlé de la Grande-Bretagne. Il y a effectivement une campagne que le documentaire d'Al Jazeera a montré, qui a venait au départ d'un diplomate israélien qui expliquait à un de ses interlocuteurs comment il fallait faire pour renverser un ministre. Il faut savoir d'ailleurs qu'aujourd'hui, ce lobby joue un rôle très important dans la campagne contre le leader du Parti travailliste, Jeremy Corbyn, en l'accusant d'antisémitisme, en faisant pression de manière... Enfin, c'est une action très, très dure contre Corbyn, qui est un des leaders qui a la position la plus claire, je dirais, sur la question palestinienne. Et effectivement, ils sont présents... Je dirais dans tous les pays. Alors ça se passe de manière différente et je dirais en fonction des réalités. Je pense qu'en France, le CRIF par exemple est beaucoup moins puissant que ne l'est le lobby pro-israélien. Mais il y a cette ingérence, il y a cette pression permanente qui se passe. Par exemple, j'ai eu un exemple d'un documentaire que Arte devait publier, l'ambassadeur qui intervient pour interdire sa diffusion. Finalement, il a été déprogrammé. Ensuite, on l'a programmé à 2h du matin. Enfin, il y a cette pression permanente avec, de manière permanente, cette pression à l'antisémitisme. C'est-à-dire, dès que vous avez une critique d'Israël, on dit, en fait, vous êtes un antisémite camouflé.
Que se passerait-il si d'autres pays qu'Israël faisaient la même chose justement qu'Israël, mettons le Canada, la France ou les États-Unis, dans l'ingérence,
hein. On le voit déjà avec l'affaire russe. C'est-à-dire la proportion que prend dans la vie politique américaine la question des ingérences russes est immense. Et n'importe quel autre pays, à part Israël, ferait ce qu'Israël fait aujourd'hui. Il y a un des interlocuteurs dans le documentaire qui dit, mais non seulement, imaginons que les Russes, les Iraniens, évidemment, il y aurait des poursuites contre eux, mais même si le Canada faisait ça, il y aurait des poursuites contre eux. Le problème est de savoir si Israël est au-dessus des lois américaines. Et c'est vraiment une question que pose ce documentaire de manière très forte.
Des lois américaines et peut-être aussi des lois internationales.
Oui, ça c'est...
Orient Hebdo sur RFI.
Vous écoutez Orient Hebdo sur RFI. Nous sommes en compagnie d'Alain Grèche, directeur de la revue Orient 21 et auteur d'un article sur à la fois les méthodes des groupes de pression américains favorables à Israël et sur le documentaire que la chaîne de télé Qatari Al Jazeera leur a consacré. C'est d'ailleurs l'autre aspect de cette affaire. Pourquoi, pour le moment, le documentaire en question est-il invisible ?
Alors pour ça, il faut remonter à la crise du Golfe, c'est-à-dire le moment où l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte décident de rompre leurs relations diplomatiques avec le Qatar, de lui imposer des sanctions, de demander la fermeture de la chaîne Al Jazeera. Et on parle à l'époque vraiment d'un danger d'invasion. Le Qatar, c'est un tout petit pays qui n'a pas d'armée, donc les risques d'invasion sont là. Et c'est le moment où Trump va, dans un premier temps, oubliant sans doute qu'il y a au Qatar la principale base militaire américaine. On a l'impression qu'il prend position pour les Saoudiens. Et donc, il y a une crainte réelle de la direction du Qatar que ça va sur sa survie. Et donc, elle va faire ce que font les gouvernements. Ils vont acheter les services de sociétés de relations publiques aux États-Unis, dépenser des millions de dollars. Et une partie de leur objectif, c'est de viser une partie de ce lobby pro-israélien. Et ils vont inviter en particulier l'organisation sioniste américaine, qui est peut-être l'organisation la plus à droite dans le lobby, qui est déjà très à droite. Et le président de cette association, qui s'appelle Morton, je crois, fait une déclaration à l'issue de cette visite, disant « j'ai obtenu le fait que ce documentaire sur le lobby juif, il n'y a jamais la mention de lobby juif dans le documentaire, soit interdit ». Ça pose déjà une question, c'est-à-dire on peut penser que ce documentaire, est, on peut le critiquer, etc., mais la censure n'est jamais une bonne réponse. Mais donc c'est le lobby lui-même qui met cette affaire du documentaire sur la place publique. Et donc à partir de là, il y a un débat, mais Al Jazeera ne va jamais dire qu'elle a arrêté le documentaire, ni dire pourquoi ce documentaire a été suspendu. C'est évident que c'est une décision politique. Voilà. Alors, le problème maintenant, c'est que il y a eu beaucoup de fuites. Il y a l'article que j'ai fait dans Le Monde diplomatique.
Justement, comment est-il possible que vous ayez pu visionner ces 4 épisodes
Écoutez, je
sais pas. Bon, ce sont vos connexions, mais oui. Comment la non-diffusion de ce documentaire a été ressentie au sein de la rédaction d'Al Jazeera?
Elle a été très mal ressentie au sein de la rédaction. Il y a un des principaux responsables du pôle de investigation qui s'appelle Switcher, qui a fait une lettre ouverte disant qu'il n'était pas d'accord. C'est évident que l'ensemble des journalistes n'étaient pas d'accord. Et donc, je pense que c'est ces journalistes qui ont joué un rôle pour, à travers différentes connexions, faire connaître. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que moi, j'ai eu accès à l'ensemble du documentaire. Et il y a aussi le fait que plusieurs sites américains comme Electronic Intifada ont publié des extraits du documentaire. Les extraits, c'est plus dangereux de les publier parce que là, il y a une propriété intellectuelle. Mais en fait, quand on y réfléchit 5 minutes, il est peu probable que Jazeera fasse un procès. Parce que, je veux dire, pour leur image, ça serait très mauvais pour l'image du Qatar. Et puis maintenant, tout est sur la place publique, donc ça serait inutile.
D'autant que Al Jazeera minimise finalement la portée éventuelle de ce documentaire, puisque lorsque Morton, de l'association dont vous parliez tout à l'heure, évoque un lobby juif, la chaîne, elle, ne parle que de groupes de pression. Donc,
il tente de minimiser
les choses.
Non, il minimise pas les choses. Il répond au fait que ce serait un documentaire, Morton dit, un documentaire ignoble, antisémite, etc. Donc c'est là-dessus qu'il critique, que Jazeera dit non, ce n'est pas ça. C'est un documentaire sur un groupe de pression.
Mais lobby, c'est un gros mot ?
Non. Alors, il faut bien comprendre que les mots n'ont pas le même sens dans tous les pays. Aux États-Unis, c'est un mot qui est adopté. On parle du lobby des armes à feu, du lobby pro-israélien. Ça... En France, le lobby, c'est plus ambigu parce que les gens qui l'utilisent font... Enfin, je veux dire, des fois, ça a une connotation un peu les juifs qui sont partout dans le monde, etc., etc. Mais bon, je vais dire... Et puis, aux États-Unis, les lobbies, c'est officiel. C'est-à-dire, il y a un lobby des armes à feu, il y a un lobby pro-israélien, etc. En France, on n'est pas dans la même situation. Mais bon, je veux dire...
On l'a vu récemment dans les affaires d'environnement avec la mission du ministre.
Voilà. Et puis, on cite dans l'article, je crois, un ancien président du Congrès juif mondial, Goldman, il disait « il faut en finir avec le lobby juif aux États-Unis ». Donc, je veux dire, il ne faut pas non plus voir une dimension antisémite dans toute utilisation du mot « lobby ».
Est-ce que ce documentaire est encore aujourd'hui un outil diplomatique dans les mains du Qatar par rapport aux États-Unis ?
Je pense que non, et c'est pour ça que je suis optimiste sur le fait qu'il va être diffusé. Parce que une fois que les choses sont venues sur la place publique...
Mais justement, quelles conséquences peut-il avoir ce documentaire ?
Alors, une des raisons pour lesquelles Jazeera avait arrêté sa diffusion, c'était les menaces du lobby... de faire désigner Jazeera comme agent d'une puissance étrangère. Ce qui est quand même assez paradoxal quand on sait ce qu'est le lobby pro-israélien aux États-Unis. Donc, maintenant, quelles seront les conséquences de la publication ? Je dirais d'une certaine manière, le fait qu'on ait retardé comme ça sa projection, ça risque de lui donner plus d'importance. Mais est-ce que ça ira jusqu'à des conséquences judiciaires, ce qui serait normal, c'est-à-dire une poursuite contre des activités illégales sur le territoire américain, je ne sais pas.
Poursuite judiciaire, évidemment, contre les groupes de pression et non pas contre les journalistes qui ont fait le documentaire.
Bien sûr.
Merci Alain Grèche, directeur de la revue Orient 21.
Merci Éric Bataillon.
Et je renvoie à votre article publié dans le numéro de septembre du Monde diplomatique, Lobby israélien, le documentaire interdit sur les méthodes des groupes de pression américains favorables à Israël et la non-diffusion pour le moment de ce document. Orient Hebdo est une émission de RFI réalisée par Mathias Golshani que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr. rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Vous pouvez également la podcaster sur notre application Pure Radio. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de la Radio Mondiale. Avant le journal d'info, on se quitte avec Rock El Kasbah, morceau emblématique et reprise des Clash en arabe de Rachid Taha. Rachid Taha, le chanteur d'origine algérienne, qui est décédé mercredi d'une crise cardiaque à 59 ans.
الراقه بركلو وش هذه الفوضى بتضرب صحرا يسيل الشيخ يسوق الكاديار رعبت في السنتر فيل كان دبنا ولا حنج استنى في راس المال Yeah.